Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, direction la Chine. Pour voir la plus impressionnante des constructions humaines, la Grande Muraille. Une grande muraille qui nous rappelle nos murs, virtuels ou réels.
Au cœur de l'histoire.
21 jours de paralysie partielle de l'administration américaine, mais Donald Trump continue de défendre l'idée de son mur à la frontière avec le Mexique. Les démocrates refusent toujours de financer les 5,7 milliards de dollars. Chacun des deux camps accuse l'autre d'être responsable du shutdown.
Depuis plusieurs semaines, les États-Unis sont dans une situation de shutdown, c'est-à-dire un blocage budgétaire autour d'une seule question, le mur. Le mur que veut construire Donald Trump au sud des États-Unis pour faire barrière, frontière avec le Mexique. Et au fond, ce projet au cœur de son programme n'est pas sans rappeler la muraille de Chine et la fonction qu'elle a pu avoir au cours de l'histoire. Eh bien, on va revenir sur cette grande muraille, cette barrière qui a quelque chose de différent par rapport à ces grands murs virtuels du numérique qui font obstacle à tout ce qui est nuisible. Cette barrière qui, on le verra, a aussi été évidemment un lieu de passage. Et donc, suivez-nous sur la muraille de Chine et évidemment au cœur de l'histoire.
Je l'admire dans toute sa splendeur monstrueuse. Elle impose, elle étonne, elle donne à rêver. Long poème de briques et de pierres, composé par les mains des hommes, elle suit la nature vivante en ses détours, en ses brusques sursauts, comme si de cette nature, elle en faisait partie. Rien ne l'arrête, rien ne la coupe. La voir ici, on la dirait éternelle. Ceinture d'un continent, projet majestueux, projet réalisé, un des boucliers du monde, beau songe d'un empereur, chimère du moment, qui devint un immuable dragon de pierre. C'est le grand mur des 10 000 lits, c'est la grande muraille de Chine.
Ce sont deux voyageurs, au début du XXe siècle, deux jeunes gens, Victor Segalen, un médecin, homme de lettres, et Gilbert Devoisin, un romancier et poète à 16 heures, qui voyagent à travers la Chine et qui font la description de cette grande muraille et qui commencent déjà à percevoir la dimension mythologique de ce lieu. Non seulement la grande muraille est un immense ouvrage architectural, une ligne de défense, mais elle joue aussi un rôle dans la culture populaire chinoise, quelque chose comme un marqueur d'identité. Cette grande muraille de Chine, pour la comprendre, il faut savoir qu'elle fait pratiquement 20 000 kilomètres de long. 10 000 lits, disent les Chinois. Et cette grande muraille a eu une fonction historique qui a consisté à établir des défenses face à des envahisseurs, mais aussi tout simplement face à des nomades, à des voyageurs, pourrait-on dire. La grande muraille, pour les touristes à quelques kilomètres de Pékin, a l'apparence d'une longue ligne sinueuse de briques et de pierres qui suit et accompagne le paysage, ses collines, ses vallées, et qui, à intervalles réguliers, voit s'édifier des tours, comme des tours de guet, et parfois des édifices un peu plus vastes, comme des forts qui serviraient ou qui ont servi de point d'appui à une armée qui voulait défendre le territoire. Tout cela a une apparence à la fois dense, unifiée, et en même temps quelque chose d'historique, de dépassé. On sent bien qu'on est face à quelque chose qui ne sert plus depuis un long moment, mais qui nous autorise, visiteurs, touristes, curieux, à marcher tranquillement au plein air en regardant ces magnifiques paysages de l'intérieur de la Chine. La Grande Muraille, en réalité, n'est pas un véritable ensemble. Elle a été construite par tronçons, par bribes, par morceaux, par des bâtisseurs qui, à intervalles réguliers, ont décidé de renforcer ce mur, comme une sorte de grande œuvre que les Chinois, depuis presque l'origine de leur monde, auraient dû entretenir, soigner et amplifier. Cette grande muraille, on va le voir, commence presque à l'aube de la Chine, au moment où est né le pays et même, plus précisément, au moment où le pays a trouvé son nom, car son premier bâtisseur s'appelait précisément l'empereur Qin. Il y a une sorte de préhistoire à la Grande Muraille de Chine. C'était à la période qui porte ce nom assez charmant de printemps et des automnes, à l'époque où la Chine était séparée en différents royaumes. Et puis, chacun d'eux a décidé d'édifier ses propres murailles pour se distinguer et se séparer de ses adversaires. C'était encore le cas au moment des royaumes combattants. Mais progressivement, dans cette période entre, disons, allez, moins 650 et moins 450, ces premières murailles vont être unifiées par un personnage, Qin précisément, qui va unifier le territoire et réussir à reconquérir l'ensemble des royaumes qui jusqu'alors étaient séparés. On se situe alors vers moins 221 avant Jésus-Christ. Le règne précis de Qin, Shangzhuangdi, est entre 221 et 210. Qin va distinguer un premier groupe qu'il considère comme, au fond, ceux qui doivent se situer à l'intérieur de son empire. À l'extérieur, il rejette quelques tribus, notamment appelées du nom de Zhongnu, tantôt associées aux Turcs, tantôt associées aux Mongols, mais en tous les cas, ce sont des peuples nomades qu'il va considérer comme différents de ceux de la Chine intérieure. Et donc, il va construire un premier mur d'environ 5000 km de long, qui reprend en partie certaines constructions des anciens royaumes, qui franchit le fleuve jaune et en suit le cours jusqu'à ce qu'on appelle le sommet de la boucle. Bref, 5000 km de long pour essayer de bloquer ces nomades et de les distinguer des Chinois. Si Qin décide de bâtir ce mur, c'est qu'il y a une raison stratégique. Face à lui, les Zhongnu ont une technique de combat tout à fait moderne et différente de celle des Chinois. Les Zhongnu sont des cavaliers. Ils se déplacent rapidement. Et de surcroît, ils ont des archers qui tirent depuis leurs chevaux et réussissent aisément à franchir une ligne de fantassins. Puisque les poitrines ne peuvent plus bloquer les chevaux, eh bien, il faut trouver des pierres. C'est la logique à partir de laquelle Qin construit ce premier tronçon géant de mur. Donc exclusion ethnique et en même temps aspect stratégique. Cela va nécessiter évidemment la mobilisation de milliers, de centaines de milliers de travailleurs pour arriver à faire ce mur qui, bon, évidemment, n'a pas la technique actuelle, donc est composé par moments de pierre, à d'autres moments de pieux, de morceaux de bois, de manière à bloquer les chevaux, à ce qu'il ne puisse pas y avoir une attaque de cavalerie et qui n'est pas toujours aussi facile à entretenir qu'on pourrait l'imaginer. C'est ainsi que ce premier mur mobilise une si grande force de travail qu'il nécessite la mise en place d'une structure véritablement tyrannique de gouvernement au profit du souverain. Et c'est cette image que va laisser Qin dans la mémoire collective, celle d'un bâtisseur mais aussi celle d'un tyran. C'est en tout cas le jugement que reprend Sima Qian, un des premiers historiens chinois vers le 1er siècle avant notre ère, qui témoigne dans ses écrits à la fois de ce qu'il a pu voir de la muraille, mais en même temps du pouvoir terrifiant que Qin avait établi sur le pays.
Je suis allé sur la frontière nord. Au cours de mon voyage, j'ai observé les remparts de la grande muraille que Meng Tian a construite pour Qin. Il a creusé des montagnes, comblé des vallées et ouvert une voie directe. Assurément, il ne s'est pas soucié des efforts du peuple. Qin venait de détruire les états féodaux, et les esprits des hommes sous le ciel n'avaient pas retrouvé le calme. Les blessés n'étaient pas guéris. Mais bien qu'étant devenu un général de renom, Meng Tian n'utilisa pas cette occasion pour faire des remontrances et pour remédier aux détresses du peuple, pour voir aux besoins des vieillards, permettre aux orphelins de survivre, faire tout son possible pour cultiver l'harmonie parmi les masses. Au lieu de cela, il a servi avec complaisance les ambitions impériales. Dès lors, n'était-il pas normal que son règne et lui subissent la peine de mort ?
La disparition de Qin ne signifie pas du tout la fin du mur. La dynastie suivante, celle des Han, va le consolider, le renforcer, le développer. Le mur, à cette époque, commence à jouer aussi un rôle presque de frontière douanière. Il est le lieu où l'on franchit les portes pour rentrer en Chine, y apporter des produits, et donc un lieu de contrôle de l'activité. Sous la dynastie des Han, chaque empereur, à son tour, rajoute des morceaux de muraille. Commence aussi à se faire sentir de nouveaux adversaires, un peu différents des Zhongnu. Ce sont par exemple les cavaliers qui viennent du Turkestan et qui, à intervalles réguliers, ravagent l'Asie centrale. Il faut donc aux Han renforcer la muraille tout en essayant aussi de porter leur capacité de gouvernement un peu au-delà. C'est ainsi que commence à se dessiner un autre parcours du mur, plus large et essayant de relier des hauteurs, des montagnes, jusqu'à la mer. Au 5e, au 6e siècle, les Wei, puis les Shi septentrionaux, et enfin les Sui, bref, différentes dynasties, renforcent à leur tour la construction de la Grande Muraille. Il s'agit de protéger ce qu'on considère désormais comme un espace intérieur. C'est dans ce contexte que commence à s'élever toute la mythologie de la muraille de Chine. Des contes et légendes qui vont inspirer la plupart des poètes et qui, dans la longue durée, vont être enseignés aux enfants dans les écoles. L'une des histoires les plus connues est celle de Meng Jiangsu. Elle est véritablement connue de tous les Chinois et nous renseigne sur l'effort colossal qu'a signifié la construction de ce mur à travers les siècles. Meng Jiangsu est une jeune femme qui arrive au pied de la muraille de Chine à l'approche de l'hiver. Elle demande des nouvelles de son mari qui avait été déporté pour travailler sur la muraille par un des fonctionnaires de l'empereur. C'est là qu'elle apprend la mort de ce dernier. Effondrée, en larmes, la jeune femme demande à voir le corps de son mari. Mais on lui explique qu'il a été enterré sous la muraille. Il fait partie de ce soubassement humain au terrible mur de pierre. Meng Jiangsu ne peut retenir ses larmes. Elle pleure si fort que les murs s'effondrent, que la muraille tombe, laissant apparaître les ossements de son mari. La veuve peut alors prendre les restes et leur donner une sépulture décente comme il sied, c'est-à-dire à l'une vue. Plus tard, une tombe et un temple ont été construits en l'honneur de Meng Jiangsu, cette épouse fidèle qui avait respecté les traditions mortuaires. Il existe évidemment d'autres histoires sans doute plus gaies pour raconter la muraille de Chine, mais celle-ci dit bien l'effort considérable et la place qu'occupe dans l'imaginaire des Chinois ce mur qui est à la fois considéré comme une limite et une malédiction. Car la vie des hommes, évidemment, est désormais enserrée dans ces murailles. Enserrée, n'exagérons pas. Même si les différentes dynasties essayent d'entretenir ce mur, à l'évidence, il n'est pas étanche. Et à intervalles réguliers, des groupes réussirent à le franchir. Un exemple, et non des moindres, Gengis Khan. On était au XIIe siècle, sous la dynastie des Jin. Et les peuples de Mongolie avaient réussi à se fédérer derrière un jeune homme. Il s'appelait Temujin. Mais ses victoires successives le font désigner par ses propres hommes. Comme un khan, un chef de guerre, un roi, il est Gengis Khan. En 1211, il lance une immense campagne contre la Chine du Nord. Il remporte des victoires successives. La réputation de ses troupes est si terrifiante qu'on fait d'elles de véritables massacreurs, des destructeurs. Des hommes incapables de comprendre ce qu'est la civilisation chinoise, bâtie sur des villes, à côté de ces immenses terres cultivées. La réputation sanglante des Mongols est restée si forte dans la mémoire chinoise que Victor Segalen, vous vous souvenez, ce voyageur du début du XXe siècle qui était allé en Chine, va reprendre cette vision et décrire la conquête de la Chine par les Mongols à travers le regard de ces hommes comme une véritable suite de massacres et de ripailles.
Nous autres, sur nos chevaux, n'entendons rien aux semailles. Mais toute terre labourable au trot, qui peut se courir dans l'herbe, nous l'avons parcourue. Nous ne daignons point bâtir muraille ni temps, mais toute ville qui peut se brûler avec ses murs et ses temples, nous l'avons brûlée. Sans frontières, parfois sans nom, nous ne régnons pas. Nous allons.
On pourrait penser que pour les Mongols, il y avait dans cette brutalité quelque chose comme une revanche de l'histoire. Après tant de siècles, après avoir été écartés de la Chine, sans avoir pu bénéficier des échanges qui étaient si nécessaires à leur peuple, désormais c'était eux, derrière Gengis Khan, qui se trouvaient à la tête du pays. En réalité, quand on regarde de près la Chine de cette époque, il y a certes eu une épuration des élites, des éliminations systématiques de ceux qui y travaillaient avec la dynastie précédente. Mais les grandes villes sont restées approximativement les mêmes. La population a continué de travailler et de prospérer. On a donc une double mémoire, celle de la cruauté des Mongols et la réalité d'une Chine qui est en train de se reconstruire. Avec ces conquêtes de la dynastie mongole, la Grande Muraille n'a plus aucune fonction défensive. Désormais, en réalité, c'est une grande muraille à l'intérieur de la Chine. Alors évidemment, elle peut continuer de garder ses fonctions de signalement d'information, éventuellement avec ses luminaires qu'on allumait pour signaler quand des hommes s'approchaient. Mais au fond, elle tombe en désuétude et perd l'utilité qu'elle avait pu avoir par les siècles passés. C'est la dynastie des Ming, une dynastie chinoise, qui prend la succession des Mongols de Genghis Khan et de ses descendants, qui arrive au pouvoir en 1368, qui va lancer la troisième et dernière phase de construction de la muraille de Chine. Désormais, le but est de chasser véritablement hors des limites de la Chine les Mongols. On va donc construire une nouvelle muraille, encore plus longue. Elle fera plus de 8800 km pour bloquer toute intrusion. On renforcera aussi le mur au sud. En définitive, on en arrivera presque à avoir un double système de mur intérieur et de mur extérieur. C'est véritablement une limite absolue que les Ming veulent mettre en place, avec des périodes de frénésie de construction telles qu'elles vont nécessiter une véritable obsession du peuple chinois. Le moment crucial se situe entre 1567 et 1620. Le refus d'échange avec les Mongols est tel qu'il faut absolument pour les empereurs de cette période tout bloquer, tout limiter. Mais en réalité, ils ne parviendront pas à effectuer cette frontière absolue dont ils rêvaient, mais ils construiront le nouveau mythe de la Grande Muraille, avec un chiffre, la Grande Muraille des 10 000 lits. Un lit équivaut à peu près à un demi-kilomètre. On avait donc déjà, à cette époque, l'idée d'une grande muraille qui faisait 20 000 kilomètres. Toute la période Ming est tournée autour de ce mur, comme à l'origine, l'empereur Qin avait tellement été obsédé par cette ligne de défense que, rappelez-vous, il y avait fait établir son tombeau avec ce tertre sous lequel on l'a retrouvé enterré avec ses soldats de céramique, toute cette armée imaginaire et de pierre. À l'époque Ming, la construction est si importante qu'on va développer la technologie de la brique. On aura même des artisans, des constructeurs qui seront installés le long de la muraille pour produire au fur et à mesure tout ce qui est nécessaire à l'édification du mur. Pour parvenir à relier toutes ces briques, les ingénieurs chinois de l'époque ont mis au point une nouvelle technique de ciment à base de riz gluant. Les archéologues l'ont retrouvée et s'émerveillent encore qu'elle puisse tenir aussi bien. Cela signifie une véritable économie structurée tout entière autour de la muraille de Chine. L'effort est si considérable que le pays finit par s'y épuiser. Les Ming n'ont pas vu venir l'autre danger. À l'est, de l'autre côté de la muraille, se trouve la Mandchourie. Et alors qu'ils ont fait un effort si considérable pour renforcer la muraille, eh bien, les Mandchous vont réussir à les dépasser à la faveur de cette crise intérieure et à devenir les nouveaux maîtres de la Chine, si bien que le mur est de nouveau caduc, de nouveau à l'intérieur des frontières d'un nouvel empire. Et nous voici avec cette grande muraille, telle que nous nous la figurons dans l'esprit, telle que nous l'imaginons. Aujourd'hui, évidemment, la grande muraille n'est plus cette ligne de défense réelle qu'elle a pu constituer. Elle est devenue progressivement, à partir du 19e siècle, une sorte de marqueur d'éléments de définition de ce qu'était la Chine. Au 20e siècle, on peut même dire qu'elle est le symbole des Chinois. Elle représente une sorte de quintessence de la construction et une capacité de maintien, d'entretien d'un ouvrage d'art à travers l'histoire et à travers le temps. C'est Lu Chun, un auteur du XXe siècle en 1935, qui résumera ce sentiment contrasté que tout Chinois éprouve à l'égard de la muraille de Chine, à la fois un enfermement et une fierté.
Je me suis toujours senti enfermé de tous côtés par la grande muraille, ce mur de vieilles briques qu'on est toujours en train de consolider. L'ancien et le nouveau conspirent à nous confiner tous. Quand arrêterons-nous d'ajouter de nouvelles briques à la muraille? La grande muraille de Chine, une merveille et une malédiction.
Au début du XXIe siècle, la Grande Muraille n'est plus une frontière. Elle est devenue un véritable lieu de mémoire des efforts qui ont été accomplis par les Chinois pour constituer un peuple. Évidemment, le monde communiste pendant un moment, la regarder comme un vestige inutile et stérile. Mais progressivement, ces mêmes dirigeants ont compris la nécessité de se servir de cet outil pour renforcer le nationalisme chinois. Ils ont donc entretenu la Grande Muraille et son mythe. Ils ont permis l'accès des touristes étrangers à ces magnifiques sites dans lesquels le paysage et les constructions humaines se mêlent avec une véritable harmonie. Mais les leçons à tirer de la Grande Muraille vont bien au-delà. D'abord, cette image est présente dans le bureau du président Xi Jinping. La Grande Muraille est donc encore constitutive de l'identité chinoise. Elle marque, au fond, une mentalité qui inscrit sa construction identitaire à partir d'une limite. Cette limite peut même être virtuelle et on comprend ainsi pourquoi le gouvernement chinois met un tel enjeu à avoir une ligne de défense dans le numérique qui ne soit pas surmontable. Mais en réalité, déjà, les Chinois consultent d'autres sites et trouvent tous les moyens pour essayer de contourner cette limite, signe que tout mur est dépassable. Un mythe doit être déconstruit. La Grande Muraille n'est pas visible depuis la Lune. La planète bleue n'est pas une planète bleue avec un petit trait rose. Malgré cette nuance, la Grande Muraille n'en reste pas moins la plus grande des constructions humaines. Ce podcast est terminé. Je voulais remercier tous les membres du groupe Facebook pour toutes les suggestions que vous me faites jour après jour. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'il y a certains sujets qui ont été pris. Et puis, on est en train de travailler et de vérifier les autres pour pouvoir vous proposer de nouvelles histoires. N'hésitez pas à nous rejoindre donc sur le site de l'émission et sur les différentes plateformes qui l'abritent. Et puis, bien sûr, à me signaler via Twitter ou Facebook encore vos encouragements, vos envies, et puis on en discutera ensemble. Voilà, à très bientôt.
Ce podcast est une création Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda. Il a été préparé par Simon Maisonneuve, réalisé par Christophe Davio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.